Oh, oh, oh. Yeah, da dee dee dum. Bientôt ce sera Noël. La neige tombe sur le village et laisse un tapis blanc sur son passage. Un signe du ciel. Bientôt ce sera Noël. Bas de laine pendu au manteau du foyer. Le rêve de tous les enfants, de 4 jusqu'à 99 ans. Le vent siffle de belles mélodies, comme une chorale en harmonie. Chants immortels, bientôt ce sera. Une étoile qui touche presque au plafond. Le rêve de tous les enfants, de 4 jusqu'à 99 ans. La paix et l'amour emplissent ton cœur. Le temps des fêtes, ça fait le bonheur. C'est officiel. Bientôt ce sera.
Oui, bientôt ce sera Noël et bientôt ce sera l'hiver également, même s'il y a des airs de Noël et d'hiver. C'est pas encore arrivé, n'est-ce pas? L'hiver arrive le 21 décembre et puis Noël. Est-ce que vous connaissez la date? Le 25. Alors, j'ai un beau cadeau de Noël en studio et les auditeurs et auditrices, vous allez être contents de les retrouver parce que c'est quand même assez rare qu'on les retrouve les trois ensemble et en plus de surcroît en studio. Il s'agit des collaborateurs du mercredi, les légendaires Isabelle Falardeau.
Bonjour.
Serge Bradet.
Bonjour, bonjour.
Et Daniel Lachance.
Bonjour.
Alors, sans plus tarder, présentez-nous vos sujets qui sont dans l'esprit de l'hiver et de Noël.
Écoute, c'est ça, écoutez plutôt, je ne vous cacherai pas, je parle de Noël et de nourriture. Donc, des plats
ça
traditionnels
ensemble,
de
hein?
Noël, mais à travers le monde. Donc, on va avoir, il y en a qui vont peut-être pas vous étonner, puis d'autres qui vont vous informer peut-être, puis tout ça va vous donner faim.
Et puis, vous aussi, vous êtes dans la bouffe,
ben oui,
cher
Isabelle
Serge.
Et moi, c'est QA, comme on dit.
Oui, on s'est concerté d'avance.
Ouais. Alors, moi, c'est 13 desserts, 13 pays. Faites voyager vos papilles pour les fêtes.
Bon, alors, j'espère que on ne va pas tout manger ces desserts-là.
Pas tout de suite,
non,
mais
non,
vous
non,
allez
non.
peut-être avoir le goût ouais. de le faire plus tard.
Surtout ceux et celles qui ont la dent sucrée. Mathieu, avez-vous la dent sucrée?
Pas du tout.
dit-il sur un ton...
gourmand.
Oui, gourmand. On ne fait pas trop confiance
la
quand
la bouche pleine
ça.
De truffes, en
oui.
fait.
Oui, parce que dès que Serge arrive avec ses chocolats, dès que les gens arrivent avec des petites choses sucrées, on s'en va vers Mathieu. Garde ça en régie. Puis il y a des petites choses qui disparaissent assez rapidement.
Ouais, ouais,
mais
ouais,
là, gardez-nous-en. Ouais, ouais. Là. Qu'est-ce que vous avez apporté, Serge?
Moi, c'est des Lindes, chocolat Lindes, petit sac, là, oui.
Tiramisu.
Oui.
Ah, tiramisu?
Wow. Ah, ouais.
Oh, les boules Lindes, j'aime ça.
Oh. Oui. cette marque-là, je ne veux pas faire de la publicité, mais en général, non, là, c'est assez bon.
Quand j'étais bon rapport qualité-prix. Je travaillais dans une résidence pour personnes âgées, puis on recevait beaucoup de chocolat à Noël comme cadeau, et on recevait beaucoup les petites boules fourrées.
Et puis vous avez apporté quelque chose, là. Je pense qu'on va pleurer en mangeant ça.
Mais en tout cas, j'espère que vous allez avoir autant de plaisir que moi. C'est sûr que ça me fait toujours penser à ma grand-mère quand je fais cette recette-là. C'est une recette qu'on mangeait seulement à Noël dans ma famille et que j'ai jamais vu personne d'autre manger où que ce soit. C'est les petits fours de ma tante Alec. Ma tante Alec, c'est ma grand-tante, en fait, Alec, qui était la femme de Gérard Pelletier, que vous avez peut-être connu en politique fédérale, qui était ma grand-tante. Et c'est ça, mon grand-père, à la mort de ma grand-mère, a hérité de son livre de recettes et puis il a partagé avec moi. Donc, cette recette-là, c'est moi qui suis en charge de faire cette recette-là maintenant, parce que c'est plus chez ma grand-mère. Puis mon père, il a pas beaucoup d'énergie. Il est rendu à 81 ans. Il est en forme pour son âge, là, comme on dit, mais il est quand même... Il fait deux desserts, puis moi, je fais le troisième.
Deux desserts déjà, c'est énorme.
Oui, oui.
Vous nous avez apporté le troisième, finalement.
Oui, c'est ça. Ben moi, c'est mon préféré. C'est celui que ça m'a pris le plus de temps à goûter parce que je trouve que ça paie pas de mine. Mais une fois qu'on y a goûté, ça...
Mais moi, je trouve c'est que c'est déjà attachant là, quand oui. Oui, vous nous raconterez tout. Voilà. Vous allez nous décrire la chose un peu plus tard. Et puis, Daniel, vous...
Eh bien, moi, je ne vais pas vous parler de bouffe aujourd'hui. Je vais vous parler de neige, même s'il y en a qui commencent peut-être déjà un peu à être tannés de voir de la neige.
Mais c'est tellement beau.
Noël, c'est beau.
Là, on est dans, la poésie.
Mais moi, je vais vous parler de l'album Neige d'André Gagnon qui vient de célébrer ses 50 ans déjà, c'est incroyable.
Hein? On en a parlé partout. Ouais, il y a eu des concerts à la salle Woodfield, à la Maison Symphonique, le week-end dernier.
On va en écouter des extraits. C'est quand même un album assez intéressant.
Oui, puis vous avez triché un peu là, parce que vous avez aussi choisi de nous offrir une pièce qui fait partie de l'album de Noël d'André Gagnon.
Oui, aussi, parce que dans l'esprit des fêtes, je me disais, on va parler de neige, mais on va aussi jouer une pièce.
C'est ce qu'on aime de donner la chance.
J'essaie de déborder un peu.
Alors, comme on a une heure et que déjà on a grugé un peu sur notre temps, je vais y aller quand même assez rondement sur les unes d'aujourd'hui. À la une du Journal de Montréal, deux victimes en médaillon des enquêteurs de l'Autorité des marchés financiers qui procèdent à une perquisition. Un autre stratagème de type Ponzi, 100 Québécois floués de 20 millions de dollars. L'Autorité des marchés financiers a perquisitionné hier matin au domicile d'un homme accusé d'avoir détroussé une centaine de Québécois de 20 millions de dollars. Les enquêteurs sont entrés au 425 2e rue à Saint-Zotique vers 7 heures. Ils transportaient des boîtes de documents. La perquisition en Montérégie était toujours en cours à 16 heures. L'opération visait Benoît Dicker, qui exploite l'entreprise RE7, générateur de profit, avec un signe de dollar. L'Autorité des marchés financiers ne veut pas commenter. L'enquête dure depuis des mois, indiquent les sources du journal. La Sûreté du Québec collabore en partageant de l'information, mais ne commente pas non plus. À la une maintenant, du Devoir, beaucoup de titres. La pression s'accentue sur Pablo Rodriguez. On en parle partout sur les unes des journaux ce matin. Crise au PLQ. Le chef du PLQ dit n'avoir rien su des remboursements de 500 $ comptant qui auraient été faits à ses donateurs. Il a annoncé avoir fait des dénonciations formelles à l'UPAC. Également, autre titre, Laval compte abolir sa politique d'art public. Une photo qui nous attriste. À Gaza, des habitants meurent de froid. De nouvelles pluies hivernales se sont abattues cette semaine sur la bande de Gaza, déjà ravagée par la guerre, faisant au moins 18 morts depuis le début des intempéries. Et Montcalm n'est pas mort ici. Dans le Vieux-Québec, une plaque commémorative trompe le public sur l'endroit où le général français est décédé au lendemain de la bataille des Plaines d'Abraham. La plaque commémorative indiquant l'endroit où Montcalm est mort au lendemain de la bataille des Plaines d'Abraham induit les touristes en erreur depuis plus de 25 ans dans le Vieux-Québec. Le général français n'est pas décédé au 47 rue Saint-Louis, mais au 59 dans une maison appartenant aujourd'hui au ministère de la Défense nationale. C'est Dave Noël qui raconte l'histoire. Et puis, je termine avec la une de la presse plus d'aujourd'hui. C'est Pablo Rodriguez qui est à la une aujourd'hui. On peut lire en lettres majuscules, ébranlé, émotif, en pleurs. Pablo Rodriguez remettait en question son avenir politique lors d'appels à des proches mardi, hier. Après de nouvelles révélations, le chef libéral a reporté une réunion déterminante de son caucus, alimentant des rumeurs sur une démission imminente.
Si la France a ses rillettes, son foie gras, ses crêpes, Suzette, la Belgique a ses gaufrettes, et Milan son escalope, Portugal a ses sardines, Toronto sa margarine, l'Espagne a ses mandarines, et l'anglais son marin chops, mais nous on fait exception, au diable l'importation. À part la patate,
à part la patate,
la patate à part,
la patate à part,
le ragoût de pâte,
le ragoût de pâte,
la soupe au pois, qu'est-ce qu'on dévore? Oh, c'est la tour, tour, tour,
la tourtière.
On savoure, voure, voure,
tout entière.
Fête, 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 fête,
ménagère.
Chaud, savon, savon, savon,
la tourtière.
On vante la bouillabaisse que font cuire les Marseillaises. On tourne la mayonnaise du Tonkin jusqu'au Chili. La choucroute est allemande, le fromage de Hollande, chop suey garni d'amandes, tout ça c'est des chinoiseries. Mais nous on est des gourmets, on aime les bons mets. À part le gueuleton,
à part le gueuleton,
qui guère dans le ton,
qui guère dans le ton,
ou dans le boudin,
ou dans le boudin,
il faut manger quand on a faim. Mais la tour, tour, tour,
la tourtière,
on savoure, voure, voure,
tout entière.
Et ça vaut, ça vaut, ça vaut,
va vous plaire.
Chaud, ça bon, ça bon, ça bon,
la tourtière.
La recette, c'est facile comme une omelette. Vous mettez dans une assiette des machins, mais pas trop gros. Ajoutez des petites affaires, videz-y toute la salière. Embrassez la cuisinière et placez dans le fourneau. Mais pour faire du flofla, faut pas s'arrêter là. Pour casser le jeûne,
pour casser le jeûne,
il faut le jeûne,
il faut le jeûne.
Le jeûne c'est quoi?
Le jeûne c'est quoi?
Pour lever ce plat de choix. Oh, tout d'abord la dent en or
de grand-père,
de la part de tante Aurore,
c'est Jean-Pierre.
Pour pas faire de peine encore,
pour mon père,
rajouter une couenne de l'or,
la belle-mère.
À Noël, que mange-t-on?
La tourtière.
Au jour de l'an, que mange-t-on?
La tourtière.
Et au roi pour le gueuleton,
la tourtière.
De la porte jusqu'au menton, de la tour,
de la tour, la
tour lourde,
tour lourde,
de la tour lourde, lourde,
la tourtière.
La bottine souriante, la chanson La Tourtière.
Oui, un plat traditionnel de Noël. Et Isabelle, ben, ça nous amène à votre chronique où vous allez nous présenter les plats traditionnels de Noël, non seulement au Québec, au Canada, mais autour du monde.
Oui, les plats traditionnels de Noël autour du monde, un article que j'ai trouvé sur le site Nouveau Moi. Ça date du 7 novembre 2025. Et puis, donc, soit vous êtes peut-être en train de commencer à planifier votre repas des fêtes, ou c'est déjà comme fait une partie, ou vous êtes comme moi, puis à la dernière minute, la levée, vous dites « Oh my God, oh my God, oh my God, il faut que je fasse quelque chose ». Mais évidemment, partout dans le monde, c'est un peu festif, peu importe de quelle façon on fête. Alors, on a fait un petit tour du monde très, très petit, là. Qui commence, bien sûr, par le Québec. Et là, je ne vais pas vous étonner. On ne parle pas beaucoup de temps que ça de sucre, de dessert. Le dessert, ça va être mon petit cadeau à la fin.
Et puis, en plus, Serge parle de dessert.
Donc... Et oui, c'est ça, on se complète, là. Mais pour le Québec, on nous parle vraiment de mets spécifiques. Vous allez voir, pour les autres pays, on fait juste parler globalement, là, surtout. Mais donc, on nous parle évidemment de la dinde farcie qui occupe une place de choix à notre table de Noël, savoureuse, économique. Bon, économique de moins en moins, mais quand même parce que ça en fait beaucoup. Alors, on peut se faire des restants pendant très longtemps après.
En mangeant en janvier sous forme de toutes sortes de choses.
Le ragoût de boulettes et de pâtes.
Ouais.
Donc, accompagné de pommes de terre, c'est vraiment à la base là, de... Puis moi, j'aime beaucoup les petites boules de farine qu'on met dedans des fois là aussi. La tourtière du lac, évidemment, on ne parle pas de la tourtière, là, on parle vraiment... En fait, il n'y a pas nécessairement de débat, c'est la tourtière du lac qui est le plus traditionnel. Évidemment, ça fait l'objet de plusieurs controverses quant aux ingrédients qui la composent. Donc, ouais. Il y a plusieurs versions, mais c'est quand même un incontournable, la tourtière. Et pour le dessert, évidemment, la bûche.
La bûche de Noël.
La bûche de Noël. Donc, je ne vais pas donner plus de détails que ça. On les connaît pas mal si on est au Québec et même au Canada. Là, c'est un peu les mêmes. Ben, en fait, je ne sais pas. Je serais curieuse de savoir pour le Canada. L'année prochaine, peut-être.
Moi, j'admire ceux qui sont capables d'en faire parce qu'il me semble que rouler, ouais, oh, juste le roulement de la chose, là, c'est compliqué.
C'est plusieurs étapes. Hein, donc, non, j'ai les petits fours là, que je vous ai préparés. Vous allez voir, c'est super facile si jamais vous voulez faire la recette. Donc, on commence en Europe, donc en France, à Noël. Les Français mettent à l'honneur les produits luxueux. Donc, on va retrouver sur la table du foie gras, des truffes, des huîtres, du caviar, des escargots, coquilles Saint-Jacques, saumon gravlax et bien sûr, le tout accompagné de bulles. Alors, moi, je vous en ai apporté des bulles. Je ne sais pas si je peux déjà vous les servir.
Bien, pourquoi pas? Wouhou! Oh, hey, vous êtes vite sur le
champagne.
Bouchon.
Champagne! Et alors, c'est des bulles sans alcool, puisqu'on est... ben, c'est ça.
On est on duty, au travail.
donc, santé tout le monde.
Santé. Joyeux Noël, un peu à l'avance. Mais on a commencé à souhaiter nos meilleurs vœux.
Oui, alors c'est des bulles, c'est Lao, c'est des bulles, ça s'appelle. Donc, Mucha de...
Je connaissais pas ça.
C'est vraiment une boisson pétillante à base de thé. J'ai découvert ça la première fois que j'ai fait février sans alcool.
OK, base de thé.
Oui,
de
donc,
thé noir.
Ça s'appelle des bulles de thé.
Ah,
OK.
Il y a plusieurs... Ah, j'ai pas pensé de vous demander. Il y en a-tu qui sont allergiques aux champignons parce qu'il y a des extraits de champignons?
Ah oui, OK.
Ah, je me sens pas bien. Là.
Mais quand vous parlez de bulles de...
Mais c'est plusieurs variétés de thé.
C'est du thé,
oui. Il y a plusieurs THE, voilà.
Mais c'est vraiment délicieux.
Donc, probablement que ce n'est pas les bulles qu'on sert là, en France à Noël, mais peut-être de plus en plus.
Mais est-ce que c'est un produit français?
Non, ça, c'est un produit... Enfin, je ne sais pas, j'ai...
Donnez-moi donc la bouteille que je regarde.
Ouais, à connotation chinoise. Ah. C'est écrit ou peut-être vietnamien. En tout cas, c'est des... Mon ignorance en ce moment, mais vous allez corriger le tout, je vous fais confiance. Donc oui, c'est ça, donc pour les plats, les bulles, et il y a certains mets similaires aux nôtres qui sont typiquement associés au repas des fêtes de la France, comme la dinde farcie au marron, par contre, et la bûche de Noël, c'est aussi en France qu'on va retrouver ça. Au Portugal, maintenant, les tables de Noël de Portugal, vous allez voir, ça tourne beaucoup autour des produits de la mer, on ne sera pas étonné. Alors, traditionnellement, on va y manger des acras, les acras de morue, hein, les croquettes de morue, les calmars farcis, les sardines, le chorizo.
Ah, ça donne faim!
Mais là, je vous l'avais dit. Mais le plat principal demeure sans doute, et là, j'ai aucune idée comment le prononcer. Je vous avoue, je n'ai pas pensé d'aller voir. Je m'étais dit que j'allais le faire. Bacalao, donc c'est B-A-C-A-H-L-A-U. C'est de la morue séchée et dessalée, qui est apprêtée ensuite de différentes façons. Et les desserts sont très importants aussi dans les repas de Noël du Portugal. Donc, les gâteaux, les petits flans à la cannelle, donc les fameux pastéis de nata qu'on a tous peut-être découvert pendant la pandémie.
J'en ai mangé des vrais, je ne vais pas me vanter, là, mais l'été dernier au Portugal.
Ouais.
Oh, wow! Moi, j'en commande maintenant chez Lufa. Il y en a souvent qui sont... Une compagnie de Montréal, mais qui fait des super bons.
Les meilleurs sont sur Saint-Hubert, chez Rosario, je pense.
C'est ça, c'est exactement ceux-là que je mange.
Et puis, je vous recommande de les manger un peu tièdes avec un peu de cannelle.
J'aurais pas pensé.
Ouais.
Merci.
On part au Portugal en ce temps-là, à Belém.
du Portugal, ensuite, on va en Espagne. Donc, les plats typiques de la Buena Noche, la Bonne Nuit, sont la dinde farcie, encore une fois, mais aussi l'agneau rôti. Mais ici, on va mettre l'accent sur la confiserie, donc composée de miel, d'amandes et de blanc d'œufs. C'est le turrón. C'est un peu un nougat, mais dans sa version ibérique qu'on retrouve dans tous les foyers espagnols pendant la période de festivité.
C'est québécois, votre pétillant au thé.
Ah, ben ça m'étonne pas, en fait. Mais c'est d'inspiration asiatique. Okay. Là, on va dire Québécois, à cause du thé, du parce China qu'évidemment, il n'y a pas de thé local. On l'importe d'endroits qui sont généralement en Asie. En Russie, le menu Noël est également très copieux. Donc, on lève d'abord notre verre de champagne ou de vodka. Ensuite, en entrée, on sert le koulibiak, qui est un pâté brioché farci de viande ou de saumon.
Oui.
Le bœuf stroganoff constitue le plat principal.
Vous vous souvenez dans le déclin de l'Empire américain où on faisait
oui,
du koulibiak?
Oui, faisait un koulibiak, c'est vrai.
Ouais, j'en rêve depuis ce temps-là. C'est un film de 1986.
Et ça, c'est juste en entrée. Hein. Ensuite, il y a le bœuf stroganoff, le petit mijoté là, avec des oignons puis de la crème fraîche. Puis parmi les desserts, le gâteau Napoléon, le millefeuille à la crème et à la confiture. Là, j'ai peut-être pas le temps de faire le tour du monde, mais je vais vous parler de l'Italie parce que j'ai découvert un petit produit québécois. Donc, le panettone, ouais. Comment, dépendamment comment vous voulez le prononcer, panettone.
Un beau gâteau au fruit confit, évidemment, en Italie, au marron.
Vous ne serez pas étonné que là aussi, le repas est très copieux. Donc, des antipastis, fromage, charcuterie, légumes farcis. Ensuite, les pâtes farcies, tortellini, etc. Puis, ensuite, les plats de viande comme les pâtes au feu et comme dessert, ce fameux panettone. Il y en a un Québécois qui a gagné un prix. Donc, vous pouvez le trouver.
Qui a surpassé...
oui, c'est ça, il a gagné contre les panettones. Il est italien.
Est-ce que vous avez le nom du gagnant?
Oui, je l'ai ici, mais c'est dans une autre fenêtre, vu que là, je suis sur
bon,
ma
vous
tablette.
Vous en parlez tantôt.
Mais oui, c'est ça, je vous dirais ça. Le Mondo de... alors, Coppa del Mondo. Non, ça, c'est parce que c'est le prix. C'est Viva Panettone, je pense, le nom de la marque. J'ai pris une photo, mais c'est parce qu'en gros, ils écrivent qu'ils ont gagné le prix. Mais ça, c'est pas la marque. Et vous pouvez le retrouver là, dans les commerces locaux.
Viva Panettone.
Et donc, vous pouvez trouver le reste de l'article, là, si vous voulez, sur le site Nouveau Moi. On y parle aussi de Grèce, des Philippines et tout ça.
En Grèce, on mange tellement bien. Je serais curieuse, petit tour rapido, là, comme un voyage organisé.
Ben oui, mais aux Philippines, en fait, on va avoir les bibinga et le puto bumbong, qui sont deux types de gâteaux de riz et aussi du poulet, du jambon à l'ananas, du porc rôti. Et du flan à la crème pour dessert. Et en Grèce, il va y avoir de la dinde encore une fois, mais là, elle va être farcie au baies et à la tomate. Et pendant toutes les festivités, la table va regorger de savoureuses pâtisseries comme les mélomacaronas à base de noix et de miel, les kourabiedes recouverts de sucre glace et... sûrement plein d'autres desserts aussi.
Super. On a hâte de passer à vos petits fours. Puis ensuite, c'est la chronique qui va se poursuivre avec Serge Bradet, cette fois, qui va nous parler de desserts.
Oui,
vous en avez parlé.
Encore
là,
plus faim.
Est-ce qu'on mange tout de suite?
Ben oui, je pense qu'on a tout le temps.
Ben oui, on a le temps de croquer.
Alors, allez-y, prenez-vous un petit morceau.
OK. Hélène.
Pendant ce temps-là, peut-être des petits grelots. Ah, il y a Jean-Sébastien aussi qui nous a apporté des carreaux citron.
Oui, on a aussi des gâteaux au citron, mais
c'est
ils sont
Noël
pas aussi
dans
bons,
le studio.
C'est pas lui qui les a fait, sinon j'aurais pas dit ça.
C'est gênant de dire, c'est pas
c'est bon.
Bon
les,
non, merci.
Non, mais ils sont. J'adore ces petits carrés au citron-là, ils sont absolument délicieux.
Mm-hmm.
Et donc, je ne sais pas si ma grand-mère se retournerait dans sa tombe, mais probablement pas, parce que souvent dans ses recettes, elle écrit simplement graisse. Parce que quand on a grandi, on a traversé la guerre, on a appris à prendre n'importe quoi. Mais moi, je ne mets pas du beurre, je mets de l'huile de coco désodorisée. Et je ne mets pas d'œufs, je mets des graines de chia moulues. Mais mes parents, ma famille, s'en sont jamais rendus compte quand je leur fais.
Vive Isabelle et sa créativité.
Donc, c'est 100% vegan. Là,
je me disais, il y a beaucoup de beurre là-dedans, mais finalement, il n'y en a pas.
Non, il n'y en a pas.
Ça se mêle très
bien. Il y a beaucoup de gras quand même.
Ça se mêle très bien avec le petit mousseux, là. Ça coupe le gras, justement.
Oui, c'est un bon accord, mais...
Merci, santé. Puis c'est quoi les petits... ce sont des dates?
C'est 100% des... Oui, c'est des dates hachées à la main avec amour. Il y a beaucoup d'amour dans ce plat-là. C'est l'étape la plus longue.
Ça paraît.
Merci beaucoup.
Ben oui, Serge, j'avais la bouche pleine, mais là, vous êtes correct?
Oui, ça va bien, ça va bien.
L'origine des desserts de Noël dans le monde.
Oui. Ah, le titre de l'article, c'est un article de Ida Deguay dans la revue Le Petit Journal. C'est une revue française, mais ça les sources d'information sont bonnes. Et C'est, ça s'intitule 13 desserts, 13 pays. Et pourquoi 13? C'est parce que c'est pas pour la malchance, là. C'est que il y a une tradition en Provence d'avoir 13 desserts pour Noël. 13 desserts différents pour Noël.
Non, nous autres, on en a deux ce matin.
Oui, mais j'ai déjà parlé de ça, je pense, il y a 2 ans, de cette tradition-là. Alors, en France, la bûche de Noël, français. La bûche de Noël roule fièrement sur les tables françaises depuis des générations. On la fait au chocolat, à la vanille, pralinée ou glacée, et elle s'adapte à toutes les envies. Ça remonte au Moyen Âge, et à l'époque, bon, il ne s'agit pas d'un dessert, mais d'une coutume empreinte de croyance. La bûche est censée protéger la maison, la famille, les troupeaux et les récoltes, et elle doit se consumer. C'est une bûche de bois. Elle doit se consumer sans arrêt du 24 décembre jusqu'au dernier jour de l'année, d'où l'intérêt de ramasser la plus grosse bûche qu'on pouvait trouver. Le Christmas pudding.
Ah oui!
Ah oui!
Mais il vient d'où, lui? En Angleterre?
Oui, ouais. Ah ben oui.
Du pudding.
Même en 1954, la reine Élisabeth, dans ses premiers messages de Noël, faisait allusion, parlait du Christmas pudding. Elle disait que c'était une occasion de se réunir.
Happy pudding.
Wow. Ouais.
Alors, dans ce riche et flamboyant, il est flamboyant parce qu'on le fait flamber, le Christmas pudding est un monument britannique et il est préparé des semaines à l'avance. La tradition veut qu'il soit préparé le Stir Up Sunday, le dimanche qui précède le dimanche de l'Avent, soit 5 semaines avant Noël. Et imbibé de brandy.
Oui. C'est beau les traditions. Hein?
Oui. Alors, ce dessert apporte autant de chaleur que de discussions familiales. Et il cuit très...
À cause du brandy.
Oui.
À cause de la bûche qui n'arrête pas de brûler.
Et il cuit très longtemps. Avez-vous une idée du temps de cuisson? C'est assez long, surprenant.
Ah oui?
Oui.
12 heures?
Non, moins. Un petit peu moins.
8.
8, exactement. Wow. 8 heures de cuisson. Et c'est à base de fruits secs, de gingembre, de clous de girofle et de cannelle. Alors, et...
Avez-vous les recettes?
Oui, mais là, je ne les donnerai pas.
Non, je sais bien, mais c'est quand même intéressant là, de sortir quelquefois de nos traditions aller faire d'autres desserts, d'autres plats. Ouais.
Oui, parce que ça contient, voyons, j'avais le fruits secs, gingembre, clou de girofle, cannelle. Alors,
c'est comme une version cuite du gâteau aux fruits qu'on fait ici.
Ouais, le gâteau aux fruits qui dure éternellement, apparemment. Là.
Si on le mange pas.
Mais je pense que c'est ça l'affaire. C'est même qu'ils ont découvert que ça durait longtemps. Le monde le mange pas.
Moi, j'en mange, par exemple.
C'est pas ça qu'il
y en a. Et il y a la tradition de mettre dans le Christmas pudding une pièce d'argent pour apporter chance et fortune à celui qui la trouve.
Comme les rois, mais...
Oui, exactement.
Dans les galettes des rois.
En Belgique, c'est le Gougnou, C-O-U-G-N-O-U. C'est une viennoiserie typique belge et qui se déguste originellement entre la Saint-Martin et la Saint-Nicolas, c'est-à-dire entre le 11 novembre et le 6 décembre.
Gougnou.
Oui. Et très vite, ce pain brioché, dont la forme évoque un nouveau-né emmailloté, s'est propagé à la Saint-Sylvestre au 10e siècle.
C'est spécial.
Pas sûr.
Non, manger un bébé, pas sûr.
Sucré nature ou au raisin sec...
Mais pas un vrai bébé, mais quand même. Ouais,
non. Alors, sucré nature ou au raisin sec, il est de toutes les tables de petit-déjeuner.
Quel pays, ça?
Belgique. Okay. Une grande partie du mois de décembre. Là, est-ce que c'est la...
Bon, on va faire une petite pause, Serge, puis parce qu'il faut digérer tout ça, là.
Oui, absolument.
Et puis, on va poursuivre après avec vous l'origine des desserts de Noël dans le monde. Mm-hmm. Je vous rappelle que c'est le mercredi 17 décembre. Il y a Daniel Lachance qui est là, Isabelle Falardeau, Serge Bradet et bien sûr Mathieu à la console. On va se retrouver tout de suite après la pause.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Serge, c'est à toi. On vous a entendu, Isabelle. C'est comme une drogue.
C'est comme une drogue, ces petits desserts.
Oui, les petits carrés de tante Alec.
Oui.
Vraiment bon.
Mm-hmm. Petite précision pour le plum pudding, c'est qu'à l'origine, le plum pudding a été créé en 1420 en Angleterre, mais à l'origine, c'était fait avec de la viande. C'était pas un dessert, c'était une nourriture. Parce que
une tourtière.
Oui, parce que si le fourrage était rare, rendu à l'automne, on pouvait plus nourrir les animaux. Alors, on les abattait et on mettait la viande avec des fruits séchés pour les conserver tout l'hiver.
Ah.
Et là, c'était plus tard qu'ils en ont fait un dessert. Là.
Chaque culture a sa façon différente de conserver la viande.
Oui. Toujours ingénieux. En Espagne,
les 12 raisins. symbole culturel du passage à la nouvelle année.
On avait les 13 de salle,
groupe
d'humoristes. Ouais.
La légende raconte que cette tradition vient d'Alicante, où un excédent de production de raisins aurait poussé quelques viticulteurs à lancer cette tradition pour écouler les stocks. Ben, c'est bien.
Ah ouais? Ouais.
Depuis, il est coutume d'ingurgiter un raisin sur chacun des 12 coups menant à minuit. Ah. Et attention, si lorsque vous avalez les 12 raisins, l'un d'entre eux, disons le 7e, passe mal, il vous reste à travers de la gorge, le mois de juillet risque d'être difficile.
Oh. Ah, c'est pour ça.
Et le mois de juillet, c'est ma fête.
En passant.
Faire attention.
Ouais, mais c'est mieux de les croquer avant de les avaler.
Ouais, ouais, ouais.
Ça dépend du raisin aussi.
Oui. Mm-hmm. En Italie, mais c'est le panettone, le dessert de Noël. Fait que, Isabelle en a parlé tout à l'heure. Mm-hmm. Hein? Alors, ensuite, aux Philippines, c'est le bibingka. C'est, je pense qu'on a parlé...
Bien, c'est ça, c'est le fun, parce que moi, je les ai mentionnés, puis là, vous vous les expliquez
en complète.
Oui,
ça se complète. Tout à
fait. Alors, direction les tropiques avec les bibingka, c'est gâteau moelleux au riz, gluant et au lait de coco. Cuits dans des pots en argile garnis de feuilles, ils sont généralement consommés au petit déjeuner pendant la période de Noël.
Okay.
Très chauds, voire brûlants. Souvent agrémentés de fromage ou d'œufs salés, ils réveillent les papilles avec un mélange sucré, salé, irrésistible. Parfait pour les adeptes de ce n'est pas trop sucré, promis.
Non, non. Moi, c'est le mot gluant là, qui me.
Oui. Au Liban.
Donne moins de goût.
Oui. Au Liban, c'est le megli, M-E-G-H-L-I. C'est un dessert de Noël populaire au Liban et parmi les communautés chrétiennes à travers le Levant. Symbolisant le sol fertile et à la consistance gélatineuse et à base de poudre de riz et d'épices, il est préparé pour fêter la naissance de l'enfant Jésus, mais également toute autre naissance. Dans la tradition libanaise, les épices du megli favorisent la montée de lait chez la maman.
Voilà.
Malva pudding en Afrique du Sud. Le pudding malva est un dessert emblématique de l'Afrique du Sud, réputé pour sa base moelleuse, caramélisée, enrichie de confiture d'abricot et de vinaigre de malt. Une drôle de combinaison.
Eh oui!
Ce délice est nappé d'une sauce sucrée et crémeuse à verser pendant qu'il est encore chaud et qui lui confère une texture irrésistiblement fondante.
Mais les abricots, ça doit être bon là-dedans.
Oui.
Ça doit.
Ouais. Adepte de sucrerie ou non, il est difficile de résister à ce dessert, incontournable sur les tables du Noël, le centrafricain. Au Canada, je termine avec ça. C'est quoi notre dessert à nous autres?
Bien, la tarte au sucre, la tarte à la farlouche.
C'est une revue française, là. Alors, on donne...
Sucre à la crème.
Oui.
Sucre à la crème, exactement.
Ah,
ouais.
Tu l'as vu.
Oui.
Je l'avais en tête. Moi, je ne l'avais pas vu.
Oui. Il y a, deux sortes de...
Je ne vais pas me vanter.
Il y a deux sortes de
sucre à la... Encore une fois.
Il y a deux sortes de sucre à la crème, hein. Granuleux et crémeux. Lequel vous préférez, vous autres?
Moi,
j'aime les deux.
Je préfère le crémeux.
J'aime les deux.
Moi aussi, oui.
Oui.
Le granulé, moi, ça m'accroche pas. Le pain d'épices en Allemagne.
Ah oui,
oui.
Saupoudré de sucre glacé.
Oui, mais curieusement, le pain d'épices est originaire de Chine. Et c'est une star incontestée des marchés de Noël allemands maintenant. Moelleux ou croquant, il embaume les fêtes avec ses notes de cannelle, de gingembre et de chou, de clou de girofle. Alors, il est particulièrement prisé sous la forme en Allemagne de Lebkuchen, souvent décoré de glaçage et d'inscriptions festives.
Ah oui.
Ouais, qu'il soit confectionné maison ou présenté comme une maison décorative, il met tout le monde d'accord. Alors voilà.
C'est avec drôle parce que la photo qui accompagnait le pain d'épices, ça ne ressemblait pas du tout à du pain d'épices. On dirait des petits blocs de blanc. Ah, c'est parce que
oui,
c'est la photo.
Oui, je pensais pas là, avec l'imprimante. Moi, c'est ça. J'aime beaucoup le papier, le fait que j'imprime, alors c'est ça le beau pain d'épices, là.
Oui, merci.
Ça va, c'est bon.
Alors, on croque dedans et on dit « Wow! » We'll be right back. Est-ce que cette chanson, ou c'est pas une chanson, c'est une pièce instrumentale, a besoin de présentation?
Peut-être que oui, je sais pas pour certaines personnes, parce que ça date quand même de 50 ans. Ouais. Je sais pas si on l'a entendu beaucoup pendant ces 50 années-là.
Elle est revenue à la mode.
Elle est revenue à la mode, là, bien entendu, parce qu'en plus, avec les 50 ans, la compagnie disque a décidé de rééditer l'album. Donc, on parle ici de l'album...
Neige.
Oh, je l'avais mentionné au début.
Au pluriel.
Au Neige. Oui, c'est écrit Neige avec un S. C'est important de le mentionner. Et je pense que ce détail-là, je l'ai remarqué seulement quand j'ai commencé à travailler sur ma chronique. Parce que j'ai l'album Neige en vinyle chez nous, la version originale. Mm-hmm. Et c'était, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, c'est un album simple, mais avec une pochette qui s'ouvre comme un album double.
Oui, c'est vrai, moi aussi,
j'avais
l'album.
Donc, les informations dessus.
Oui.
Puis sur la façade de la pochette, c'est seulement le visage d'André Gagnon, mais un dessin. Et c'est écrit Neige un tout petit en bas, puis on regarde ça vite, puis on
remarque blanc.
Pas. Ouais, l'album est blanc, avec un visage gris. Tu sais, c'est pas vraiment novembre.
Novembre-décembre, parce qu'il y a du blanc.
Mais j'avais jamais remarqué que c'était Neige avec un S. Donc, ça avait pas pris 50 ans, mais c'est quand même pas si mal. J'ai fini par allumer. Donc, pour ceux qui connaissaient pas ça, Neige, peut-être qu'il y en a qui savent pas exactement qui est André Gagnon aussi. Fait qu'on, ça vaut la peine de donner un petit peu de détails. À ne pas confondre avec André-Philippe Gagnon au départ. Pas du tout la même personne. Vraiment, ouais. Et ni avec Philippe Gagnon, qui est un violoneux. Donc, André Gagnon s'appelait Joseph Gérard André Gagnon. Quand il a été baptisé. Il est né le 2 août 1936 à Saint-Pacôme de Kamouraska. Je sais à peu près c'est où, mais je pense que je vais m'y aller.
Juste le nom du village, ça donne envie de fêter Noël.
Ça sonne Noël. Oui. Je pense que ça fait
un merveilleux endroit.
Et je pense que, Serge, dans notre génération, on s'appelait tous Joseph.
Hein? Oui.
Je pense que j'aurais pu skipper le Joseph. Gérard André, ça aurait fait correct. Est-ce que ça se fait encore aujourd'hui?
Moi, je sais, mon nom complet, c'est Joseph-Pierre-Marc Mathieu.
Toi aussi, tu t'appelles Joseph. Ouais. Bon.
Mais ça se fait quand on est baptisé, je crois,
Daniel. Oui, c'est baptisé dans l'Église catholique.
Moi, je m'appelle Marie.
Moi aussi.
Mais Marie-Joseph, oui. Mes sœurs s'appellent toutes Marie.
Donc, Dédé!
Oui, donc, il était le plus jeune d'une famille de 19 enfants. Quand même, c'était
plus que Céline, ça, là.
Oui, il a battu Céline là-dessus, il faut le mentionner. Et il aurait composé, j'ai toujours un peu sceptique quand je vois des choses comme ça, il aurait commencé à composer dès l'âge de 6 ans.
Wow!
Fait que vraiment un petit prodige, là,
un petit Mozart.
Et il a étudié au Conservatoire de musique de Montréal de 1957 à 1961. Il y en a qui n'étaient pas nés à l'époque. Et en 1961, il a reçu une bourse du gouvernement du Québec pour aller étudier à Paris. Donc, quand même, ça veut dire qu'on avait un espoir. C'était un talent exceptionnel. Mm-hmm. Déjà, il était reconnu pour ça. Il a fait ses débuts vraiment comme professionnel à 22 ans, en 1958, comme accompagnateur du chansonnier Hervé Brousseau. Je sais pas si le nom vous dit quelque chose.
Oui.
Moi, je me souviens.
Oui, ça me dirait.
Mais j'ai pas de culture musicale.
Oui. Et l'année suivante, il a fondé le groupe Les Bozos. Ça, vous avez peut-être déjà entendu. Avec nul autre que Clémence Desrochers.
Mm-hmm. On en parle aujourd'hui. Ouais. Hein, dans l'actualité, on a trouvé un mur.
Donc, avec Clémence Desrochers, Jean-Pierre Ferland.
Avec les signatures de Clémence.
Ouais, ouais.
Il y a même Yves Montand, Simone Signoret. Peut-être que Dédé Gagnon aussi a laissé des signatures, je veux dire... L'empreinte de la main.
Un petit peu comme ça.
Mario Girard raconte l'histoire dans la presse plus. C'est
donc, il y avait aussi Claude Léveillé, qui est devenu un bon ami aussi. Jacques Blanchet, lui, le nom, ça me dit moins quelque chose, mais Hervé Brousseau.
C'était le grand complice d'André Gagnon.
Ouais. Je ne sais pas, pourquoi je l'ai moins connu, mais bon, à l'époque, tous ces autres noms-là, on les connaît encore très bien aujourd'hui. Et il a été le pianiste accompagnateur pour Claude Léveillé et René Claude. Pendant un bon bout de temps. Finalement, il a été accompagnateur pour plein de monde aussi. Il avait sa carrière solo, mais il a travaillé avec plein de monde. Et on dit qu'à partir de 1964, André Gagnon enregistre environ un album par année. Donc, il était très productif. Par contre, à l'époque, il faisait souvent des enregistrements. Il faisait des reprises, des arrangements de chansons déjà connues. Son premier grand succès populaire et international, ça a été la pièce « Pour les amants », une pièce qui a été composée par Claude Léveillé. On va écouter un petit extrait parce que le nom ne me disait rien. Et quand j'ai entendu ça,
au clavecin ou au piano?
Je pense que c'était au piano, celle-là.
Clavecin.
pense que tout le monde connaît cette mélodie-là.
C'est magnifique.
On sait pas ce on ne savait pas qui l'avait faite. Donc, ça a été composé par Claude Lévy.
Bien, on exclut la personne qui parle. Je ne sais pas.
Oui, bien, moi, je ne me souvenais pas. J'entendais cette mélodie-là des fois, puis je ne me souvenais pas qui avait fait ça.
Mais c'est une collaboration avec Claude Léveillé.
Oui, oui, c'est Claude Léveillé qui l'a fait, puis c'est André Gagnon qu'on entend au clavecin, effectivement. Ce n'était pas au piano. En 73, il a lancé l'album Projection, qui était son premier d'une série d'albums qui ne contenait que ses compositions. Là, il a vraiment pris sa carrière en main. Il a dit, je fais mes affaires. L'argent va aller dans mes poches. C'est fini. Donc, par la suite, il va enregistrer très rarement des chansons des autres, mais il va, à l'occasion, inclure une chanson de quelqu'un d'autre. Et en 1975, on y arrive. Il a lancé l'album Neige. À ne pas confondre avec Il naise dehors des
frères Brass.
C'est pas la même énergie.
On la connaît bien, celle-là aussi.
Je suis certaine que
pas...
ça le faisait rire parce que Dédé Gagnon, c'était quelqu'un qui avait un sens de l'humour extraordinaire.
C'était un pince sans rire, je pense. On le voyait pas rire aux éclats, souvent, je pense, mais effectivement, il aimait beaucoup déconner un peu. On va écouter des extraits de... Ça n'a pas été facile parce que l'album Neige, il y a du classique, il y a du pop,
oui,
disco.
Oui, c'est polyvalent, c'est hétéroclite.
La samba, il y a toutes sortes de trucs.
Éclectique.
Oui, quand j'ai essayé d'enchaîner ces trucs-là, c'était un méchant casse-tête.
On va écouter ça.
Mais je pense que j'ai réussi à faire quelque chose de pas pire.
Montage, Daniel. Vous n'avez pas respecté l'ordre des chansons
pas
qu'on
du tout.
Trouve
j'ai
sur l'album.
J'ai essayé de mixer ça pour que ça s'enchaîne un petit peu. Et on a quand même, et sur cet album-là, il y a 9 pièces.
Ouais.
On en a entendu une au début et j'ai réussi à en rentrer 7 là-dedans.
Il y en a des courtes et des très longues.
Ouais.
Oui.
Et d'ailleurs, je ne sais pas si je suis le premier à avoir remarqué ça, le jeu de mots, ça m'a pris 50 ans à allumer. Peut-être tout le monde le savait déjà. La première pièce qu'on a entendue, c'est « Ouverture éclair ». J'avais jamais fait le lien avec fermeture éclair.
Oh en, my en God, faisant, moi j'ai non fait, plus.
Ah, wow,
faut
c'est
y
cool.
penser.
Ben oui. Oh. Zipper. Donc, donc, on a entendu des extraits de Ouverture éclair, d'Edith Owen, Chanson pour René Claude, oh. Flashback, Neige, Tassamba et Petit concerto pour Jean Carignan et orchestre. Donc, c'est tout
J'ai l'impression qu'on va écouter beaucoup dans les chaumières cette année, l'album Neige.
Ça, oui. ça m'a donné le goût d'acheter la version
bien, avec la réédition.
Là, parce que j'ai plus mon disque que j'avais.
Votre pick-up?
Ben, c'était un disque qui appartenait à mon papa. Là, fait que, à un moment donné, ça s'est perdu. Mais moi, j'ai fait mon projet informatique quand j'étais en secondaire 5, donc 1986. C'était en basic, là, ça vous donne une idée, mais il fallait faire des images qui apparaissaient avec une musique, puis j'avais pris Flashback, je faisais jouer Flashback. Ben, c'était des notes d'ordinateur, là. Mais oui, ça me rappelle, j'écoutais tout le temps André Gagnon à cette époque-là.
Je pense que c'est le genre d'album, quand on l'aime beaucoup, on a une version vinyle, une version cassette, une version CD, puis là,
moi,
on l'écoute en streaming.
Moi, j'adorais chanter sur René Claude, la chanson pour René Claude.
Oui, oui, c'est quand même assez
touchant. Je l'écoutais en streaming, mais ça m'a donné le goût de l'acheter pour donner de l'argent à ses ayants droit ou à quelqu'un, là.
On a tellement de choses à dire.
Ben oui. Et il ne faudrait pas oublier aussi qu'André Gagnon a composé pour plusieurs personnes.
Oui.
Il a composé pour Steve Fizet. Uh-huh. Vous savez que
dans
la chanson
«
Dans ma caméra » qui s'appelle « Sur les chemins d'été », qui avait été écrite par Luc Plamondon et André Gagnon.
Ah ben.
Il a écrit pour René Claude, bien entendu, pour Nicole Martin, pour Fabienne Thibault. Donc,
Céline Lombez, « Vol de nuit », chanson
que j'adore. On entend les musiques d'André Gagnon, mais on l'entend aussi beaucoup ailleurs sans le savoir.
Composé aussi pour la télévision, les téléromans de Madame Payette, les Forges de Saint-Maurice.
Aussi,
en tout cas, il était extrêmement prolifique.
Extrêmement prolifique. Et d'ailleurs, je n'ai pas toute la liste, là, mais il a gagné de nombreux prix Félix, des prix Juno aussi. En 1979, il a été fait officier de l'Ordre du Canada. C'est quand même une récompense assez considérable. Et en 2018, ça, c'est le bout dramatique un peu, il a mis fin à sa carrière. Après 60 ans de carrière, d'une carrière très bien remplie, je pense qu'il n'a pas chômé souvent. Je n'ai jamais eu connaissance qu'il cherchait de l'ouvrage. Il a travaillé beaucoup. Il y avait la maladie à corps de Lewy. Mm-hmm. Je ne sais pas exactement c'est quoi.
C'est une maladie cognitive, dégénérative.
Oui, donc il est décédé... En quelle année il est décédé déjà?
Ça fait pas si longtemps que
non,
ça.
Non, en 2010-2012,
on
va vérifier
ça.
Mais
continuer.
C'est ça. Il avait quand même mis fin à sa carrière. Il ne peut pas être mort en 2012.
Non, ça ne serait pas pendant
la
confinement de COVID.
Il a mis fin à sa carrière.
Il est mort le 3 décembre 2020.
Ah, 2020, c'est ça. Ça vient de faire 5 ans.
Oui.
Ça vient de
J'avais pleuré quand j'avais entendu la nouvelle.
C'est quand même
on avait été complètement touchés. Oui.
Et le prix André Gagnon est remis depuis 2006 par la SOCAN, qui est décerné à un musicien-compositeur exceptionnel. Donc, un an après son décès environ, ils ont décidé de remettre le prix André Gagnon. Et il a lui-même reçu le prix Excellence de la SOCAN en 2019 pour l'ensemble de sa carrière. Bien entendu, c'est une carrière tellement...
Au moins, il a eu ces récompenses-là de son vivant, mais en 2019, j'imagine que il était déjà malade. Là.
Oui. Oui, sûrement, parce qu'il est décédé pas longtemps après. Et on en a parlé tantôt en début d'émission. Il y a eu un hommage à André Gagnon par l'Orchestre métropolitain qui était présenté ce week-end, les 13 et 14 décembre, à la Maison symphonique de Montréal.
Il a même ajouté une supplémentaire le 14 à 11
heures. À 11 heures le matin, une supplémentaire. Wow. Donc, il y a eu 3 concerts.
Mon petit cousin était pianiste là-dessus,
Rousseau.
Wow. Oui,
ouais, ça devait être vraiment quelque chose de très, très intéressant.
Ah oui, la critique a été dithyrambique.
Oui, je regarde l'heure parce que je veux être sûr qu'on ait
le
temps d'écouter.
Il reste combien de temps pour écouter la chanson de Noël?
On a le temps de l'écouter.
Bon, on a le temps de l'écouter et ça va être enregistré avec l'Orchestre philharmonique de Paris.
Ça aussi, c'est un album incontournable.
Oui. C'est vraiment quelque chose d'intéressant.
Christmas Song, qui n'est pas sur Neige, mais Noël, un album magnifique signé André Gagnon. Et je disais en dehors des ondes que Luc Plamondon parlait d'André Gagnon. Tout récemment, je l'ai vu, je ne sais pas, dans un documentaire, il disait que c'est grâce à André Gagnon qu'il est devenu ce qu'il est devenu, parce que lui, il pensait que le métier de parolier n'existait pas nécessairement. Et André Gagnon l'a encouragé à faire de ses textes des chansons.
Donc, si André Gagnon n'avait pas été là, on n'aurait pas eu Starmania.
Ah oui, c'est vrai, Isabelle. Wow. Oui, bien vu. Alors, en terminant, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais quelques secondes quand même pour vous dire un grand merci pour cette belle saison. Qu'est-ce que vous allez faire dans le temps des fêtes, Isabelle?
Nous, à Noël, avant, on faisait un réveillon chez mon père, puis le lendemain matin, on déjeunait puis on jouait à des jeux de société. Là, on va partir le 24 en après-midi, on va jouer à des jeux de société, on va souper, on va manger des petits fours de ma tante Alec.
Dans quel coin?
Et c'est à Repentigny. Mon papa habite dans un petit condo, là. Mais il nous reçoit quand même encore.
Bon Noël avec votre père et votre famille, tout le reste de la famille. Serge?
Moi, je vois des cousins, des amis. Puis depuis, je suis bénévole à la maison du père, moi, depuis très longtemps. Et le 24 décembre, il y a un réveillon de Noël. Et habituellement, on est pour les soupers, on est 6 bénévoles pour servir. Mais là, ils ont besoin de 50 bénévoles parce qu'on sert les gars aux tables. Comme au restaurant, tout ça. Et puis, il y a de la musique, tout ça. Oh, de dinde, ragoût de boulette,
bûche. Des desserts partout à travers le monde?
Non, peut-être pas.
Mais des bons desserts, j'en suis sûr. Et Daniel?
Et moi, c'est une rencontre de famille chez ma sœur la plus jeune, Sylvie, qui aime Gino Vanelli.
Oui. Il va peut-être avoir du Gino
peut-être
qui va jouer.
Peut-être Gino Vanelli de Noël. Toute la famille, mes sœurs, mes neveux, nièces, beaux frères, tout ça.
Donc, quoi que vous fassiez, que ce soit joyeux dans la sérénité et aussi
et
du
vous,
repos.
Et vous, Hélène?
Moi, ça va être en famille, dans l'amour, avec certainement
que c'était pour
du
être en studio, mais non.
En studio, ça va être jusqu'à jeudi. Bye-bye!
Et au quotidien, avec Hélène Denis.
Le sentier de neige courant la vallée. Dans son cortège, les sapins gelés. T'es resté bien sage, témoin d'un baiser. Que sur ton visage, je t'avais. Des flocons de neige couraient tes cheveux et la lune beige nous rendait heureux. Je t'ai dit t'aime dans la paix des bois.
Clopelgag, le sentier de neige.
Oui, ça nous met dans l'ambiance. Belle reprise de ce classique des Classels. Alors, en studio, j'ai plein de visites ce matin en studio. Cette fois, c'est Sylvie Chamberlain qui est co-directrice du Carrefour solidaire Centre communautaire d'alimentation, qu'on appelle aussi CCA.
Oui, en fait, on n'a pas rendu ça facile. On dit plus souvent Carrefour solidaire.
D'accord. Alors, allons-y avec Carrefour solidaire. Sylvie, dites-nous d'abord et avant tout, c'est quoi la mission de cet organisme?
Oui, donc le Carrefour, en fait, on incarne vraiment le droit à l'alimentation au travers de notre programmation, puis on soutient en fait les personnes qui vivent dans l'insécurité alimentaire, d'abord et avant tout, et on soutient également les systèmes alimentaires locaux.
Quand vous parlez d'incarner le droit à l'alimentation, ça veut dire quoi exactement?
Oui, bien en fait, le droit à l'alimentation, là, a plusieurs composantes dans ce... En fait, on milite avec des gens pour avoir une loi cadre du droit à l'alimentation, avec notamment le RCCQ, etc. Mais nous, comment on l'incarne, en fait, c'est...
Le RCCQ, je vous arrête.
Le Regroupement des cuisines collectives du
Merci.
Québec. Et nous, en fait, comment on le fait, c'est qu'on s'assure que les gens aient un accès à leur alimentation. On s'assure d'avoir une programmation assez diversifiée pour accueillir les gens là où ils sont rendus, puis d'éliminer les barrières, en fait, le plus possible pour qu'il y ait une facilité à une saine alimentation. Donc, nos programmes sont vraiment orientés autour de ça, là.
Et quand vous parlez des gens, vous parlez de qui exactement?
On prône beaucoup la mixité sociale au Carrefour solidaire. Là, on utilise l'alimentation pour un lien.
Vous êtes au centre-sud?
Oui, exactement. Donc, on l'utilise comme un lien social. Mm-hmm. Mais c'est sûr que nous, nos actions de mobilisation sont vraiment axées là, pour rejoindre les personnes à précarité financière, donc qui vivent de l'insécurité alimentaire. C'est vraiment ça notre champ d'action.
Alors, parlant d'action, le Carrefour solidaire s'appuie sur trois volets d'intervention complémentaires. Est-ce que vous pouvez élaborer là-dessus?
Oui. Donc, nous, on veut améliorer l'accès à des aliments frais locaux dans le respect de la dignité, l'autonomie du choix. Donc, vraiment, là, ça, c'est au plein cœur du droit à l'alimentation.
Oui.
On développe aussi les compétences des personnes en cuisine, au jardin. Donc, on est vraiment en mode cuisine collective, des groupes collectifs où on va apprendre ensemble pour développer des compétences.
Il n'y a rien de mieux hein, de savoir cuisiner pour...
Exact, oui.
Ben, pour bien manger, pour mieux manger.
Oui, puis ben en fait, c'est le premier d'améliorer l'accès, tu sais, c'est oui, il y a rien de mieux que de l'apprendre, mais des fois on n'a pas les installations pour le faire. Donc tu sais d'avoir un groupe de cuisine collective,
c'est motivant.
Exactement.
Ouais.
Donc on vient partager, on vient briser l'isolement, on vient les impacts sont à multiples aspects.
Mm-hmm.
Puis finalement, ben le troisième volet, c'est de mobiliser la communauté là, vraiment autour des enjeux sociaux, environnementaux, puis la politique alimentaire, donc vers la justice alimentaire, finalement.
Alors, comment ça se passe pour une personne là, qui va à votre centre? Qu'est-ce qui se passe
ouais.
exactement?
La... en fait, il y a plusieurs façons d'accéder au carrefour. Donc, il y a, tu sais, justement, on a quand même plusieurs actions sur le terrain, notamment la promenade des saveurs qui est un jardin collectif. Donc, les gens ont plusieurs façons d'entendre parler de nous.
Qui s'occupe du jardin?
C'est une équipe vraiment
dédiée.
Exactement, en agriculture urbaine, qui vont faire de l'horticulture avec les participants.
Pour faire en sorte que les aliments qu'on propose soient frais.
Exactement, c'est ça. Donc, on a une promenade, une rue, une piétonne, en fait, un grand jardin ouvert à tout le monde, là, que les gens peuvent venir se servir à volonté dans le jardin, finalement. Là. Vraiment, dans la perspective où on enlève les barrières.
Oui. Mais est-ce qu'il faut être membre pour accéder à ce jardin-là?
Pas pour l'ensemble de nos programmes. Il y a certains programmes plus spécifiques que oui, dont je pourrais en parler, là, la carte proximité, qui on demande à avoir un membership. Nous, ça nous permet aussi de savoir un peu à qui on s'adresse comme population, etc. Mais le membership n'est pas problématique. Là, on a plus de 1600 membres.
Ah, 1600 membres!
En
wow.
ce moment, oui.
Ah oui?
Oui, puis tu sais, même si on est dans la liaison sociale, la mixité sociale, etc., 80% de nos membres sont dans une situation d'insécurité alimentaire.
Ah oui? Donc, et ça ne va pas en s'améliorant?
Non, vraiment pas. Vraiment pas. Fait que tu sais, c'est ça où on essaie d'avoir une pertinence pour les personnes parce que les gens vivent pas tous la problématique de la même façon. Mm-hmm. On a des portes d'entrée comme les trousses mangées dans le centre-sud. Ils vont recevoir, tu sais, qui sont distribuées via un grand réseau santé communautaire. Les gens arrivent au carrefour pour la première fois. On va les accueillir. Ils vont venir manger au bol du quartier qui sont nos repas communautaires. Et puis là, on va faire un travail aussi de référencement, de voir la personne, qu'est-ce qu'elle a besoin, comment on peut mieux soutenir finalement ses besoins alimentaires.
Alors, le centre est situé où?
Sur la rue Sainte-Catherine. C'est le 2375 rue Sainte-Catherine-Est. Donc, c'est la façade jaune. Elle n'est pas...
On ne
peut pas la manquer. Elle est entre, la rue Follum et Dufresne. Donc, on est vraiment au sud du centre-sud, là, finalement.
Est-ce que vous accueillez aussi des personnes en situation d'itinérance?
Oui, certainement. Donc, on a différents programmes, là, justement, les bols du quartier, c'est un lieu qui s'adresse à tout le monde, autant pour les employés dans les bureaux autour que pour les personnes en situation d'itinérance. C'est un repas à contribution volontaire. Donc, les gens qui ont un peu plus de moyens vont donner à la hauteur de leur portefeuille. Les personnes en situation d'itinérance, bien, ils vont parfois donner, parfois pas. Non, puis c'est correct comme ça. Mm-hmm.
La dignité fait partie de vos valeurs.
Oui, une valeur forte, je dirais même parce que on essaie de s'éloigner du modèle de la charité en alimentation. On a beaucoup fondé l'aide alimentaire avec ce modèle-là de donner ce qui est les invendus, etc. T'sais, les banques alimentaires se sont beaucoup aussi fondées comme ça. Nous, on essaie de... pas que les banques alimentaires ne sont pas dans la dignité, mais on essaie de...
C'est un autre service.
Exactement, ouais. Tout à fait complémentaire, mais on essaie de redonner aussi le pouvoir aux personnes, donc pouvoir d'achat, pouvoir d'agir, etc. Là.
Pourquoi c'est justement important de proposer une approche qui est axée sur l'autonomie alimentaire?
Parce que les gens ont besoin de ça. Il y a eu un grand désengagement de l'État aussi, tu sais, par rapport à cette problématique-là de l'insécurité alimentaire, puis on le voit à peu près dans tous les enjeux sociaux. Mais
l'insécurité alimentaire, c'est quand on ne sait pas si on va manger, si on va avoir de quoi manger tantôt, là, pour dîner, pour souper, demain.
C'est ça. Donc, il y a différents degrés de sévérité. Ça se peut que tu sois juste inquiet, tu sais, que tu fasses toutes les places pour, avec des coupons, etc. Tu sais, tu multiplies, tu es stressé de ne pas savoir que... Tu sais,
ça prend beaucoup
d'avoir
de place
assez
dans
d'argent,
ta tête.
Toute la place, ouais. En fait. C'est oui. Vraiment ça qu'on se rend compte. Après ça, il y a le degré modéré où là, ça va être plus, ça va concerner des personnes qui vont réduire la qualité de leur alimentation, vont manger beaucoup de pâtes, des aliments qui vont amener une satiété, mais qui vont négliger la qualité, mais ils vont manger. Puis après ça, on parle aussi de l'insécurité alimentaire plus grave. Là, ça concerne des personnes qui vont sauter des repas, des journées complètes sans manger aussi, ou manger moins, étirer les repas pour s'assurer là, de manger. Donc ça, nous, en fait, au Carrefour, on a toutes ces personnes-là à différents degrés là, qui se présentent.
Mais quand ces personnes-là se présentent, qui les accueille et qui est capable d'analyser les besoins de l'un et de l'autre?
Alors, on a une équipe qui fait du référencement. On a une agente de liaison, justement, des trousses Mangeance Centre-Sud qui va accueillir les personnes, prendre le temps de jaser, voir un peu ce volet-là. Mm-hmm. On a des pères aidants aussi qui ont une expérience vécue en insécurité alimentaire, donc qui vont recevoir aussi pour les premières fois les gens qui se présentent. Ils vont les repérer aussi, les premiers visages, les nouveaux visages. Ils vont être capables de leur repérer, d'aller jaser avec eux. Nous, c'est sûr qu'on demande pas de preuve de revenus, on demande rien là mm-hmm. en fait pour avoir accès à nos services, mais on
se rend pas chez vous pour le fun, j'allais
dire.
Ben
non, c'est ça. Puis tu sais, ce qu'on remarque, c'est que les gens ils portent une honte en fait
à vivre
ça. Oui, exactement. Puis peut-être que ça répond à votre question aussi. Pourquoi c'est aussi important de donner de l'autonomie alimentaire? Ben, c'est aussi pour ça, parce que c'est pas honteux, c'est un problème systémique, l'insécurité alimentaire. Puis
qui va en grandissant.
Qu'il y a des nouveaux groupes de population qui sont dans le besoin en ce moment, qui fréquentaient pas les
Est-ce
ressources.
Est-ce que ça vous oblige à dire non à certaines personnes?
Ça nous oblige à avoir des critères comme le code postal, tu sais, les codes postaux, etc., pour essayer de concentrer notre intervention là où on est situé. C'est sûr qu'on fait des exceptions, on n'y arrive pas. On n'est pas encore arrivé au terme où on n'est plus capable de servir de repas, où on n'est plus. Mais c'est sûr que c'est précaire aussi pour les organismes communautaires. Mmh.
D'année en année.
Ah oui, vraiment. Ouais. La demande augmente. Là.
Qui vous finance?
Donc, plusieurs bailleurs de fonds, heureusement, mais on a un financement à la mission là, du gouvernement du Québec. On a la philanthropie, on a des donations aussi. Donc, puis c'est ça. Actuellement, on est en campagne de levée de fonds, justement, là, pour essayer de pas couper dans le gras, justement, oui, d'offrir oui. des services de qualité.
Parce qu'il n'y en a pas beaucoup de gras.
Non.
Qu'est-ce qu'on fait si on veut vous aider?
On peut aller sur notre site Internet carrefoursolidaire.org. On a une page là, consacrée aux dons. On peut faire du bénévolat. On peut s'impliquer autrement aussi. On a des fabuleux collaborateurs là, qui ont fait des levées de fonds pour nous aussi. Donc, il y a plusieurs façons de s'intéresser puis de s'impliquer finalement là.
Le Carrefour solidaire, centre communautaire d'alimentation, on en parlait avec la co-directrice générale. Vous êtes combien de co-directeurs, directrices?
Oui, on est co-directrice femme et on est trois présentement à la tête du Carrefour. Oui.
Bien, Sylvie Chamberlain, ça a été un plaisir de faire votre connaissance. Je sais que ma collègue Chantal Doré vous a accueilli pendant de plus longues minutes à l'intérieur de son émission Les héros anonymes. Alors, si oui. vous voulez en savoir davantage sur l'organisme, je vous invite à écouter cette émission avec Chantal. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sylvie. Je vous souhaite de joyeuses fêtes et une
Merci.
Belle et bonne campagne
Merci.
De financement fructueuse.
On l'espère. Bonne journée.
On prend des nouvelles du Canada francophone avec Julien Caillouette, rédacteur en chef chez Franco-Presse. Bonjour, Julien.
Bonjour, Hélène.
Alors, comme première nouvelle, les nouveaux pouvoirs de sanction du commissaire aux langues officielles ratent leur cible.
Oui, ça, c'est selon les intervenants qui sont présentés devant le comité permanent pour les langues officielles. Un nouveau règlement, selon eux, qui permet aux commissaires aux langues officielles d'imposer des amendes aux transporteurs nationaux et aux administrations des aéroports, ne va pas assez loin et est compliqué. Par exemple, Air Canada peut seulement avoir une amende de 50 000 $ maximum par infraction. Ce que ça veut dire, c'est que s'il y a 5 plaintes qui concernent une même infraction durant un vol donné, ce sera seulement une infraction pour les 5 plaintes et non pas 50 000 $ par plainte. C'est considéré donc comme une seule infraction dans ces circonstances-là. Les fonctionnaires, de leur côté, ont défendu qu'avec le nombre de trajets effectués par Air Canada, le total du nombre de plaintes peut quand même augmenter rapidement et ça peut dissuader, avoir un effet dissuasif quand même. Malgré cela, les intervenants estiment que les amendes devraient être plus élevées pour créer un véritable effet dissuasif. Les fonctionnaires encore se défendent en disant qu'ils ont créé, les fonctionnaires ont écrit le règlement en question. Ils se défendent en disant que la perte de confiance envers le transporteur peut également avoir un effet dissuasif. L'autre plainte principale des intervenants, c'est que la complexité du processus d'étude et de mise à l'amende n'encourage pas le dépôt d'amende ou de sanction. Parce qu'il y a beaucoup de critères qui doivent être évalués par le commissaire, puis ça peut être un processus long et compliqué. L'avocat de la Fédération des communautés francophones et acadiennes, John Marquise, lui a affirmé qu'il n'avait jamais vu un règlement aussi compliqué.
Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ou le contraire? Mm-hmm. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Ça va pas bien ici quand la justice familiale force les francophones à divorcer en anglais.
L'article du courrier de la Nouvelle-Écosse commence avec un adage qui pourrait être drôle dans d'autres circonstances. C'est dit, en Nouvelle-Écosse, on se marie en français, mais on divorce en anglais. On donne l'exemple de Marie, qui est un nom fictif. Là. Elle voulait garder son anonymat, qui a retardé pendant des mois ses procédures de séparation devant la cour parce qu'elle voulait être entendue en français. C'est sa première langue, c'est la langue avec laquelle elle est plus confortable, donc elle avait peur de mal comprendre les termes juridiques ou de signer quelque chose qui ne serait pas à son avantage parce qu'elle l'a mal compris. Et dans cette situation-là, éprouvante en plus, elle voulait vraiment pouvoir s'exprimer et entendre les explications dans sa langue. Puis apparemment, ce ne serait pas la seule à vivre cette situation-là. Ce qui se passe en fait en Nouvelle-Écosse, c'est qu'il y a peu ou pas de juges à la cour de la famille qui parlent, qui comprennent le français. Selon l'article, il y a deux raisons pour cette absence-là. Premièrement, le bilinguisme n'est pas un critère très important dans la nomination des juges à cette cour. Et deuxièmement, il n'y a pas de francophones sur le comité de sélection. L'Association des juristes d'expression française de la Nouvelle-Écosse propose trois pistes de solution, soit faire, bien évidemment, du bilinguisme un critère d'embauche plus explicite, renforcer la formation linguistique des juges et du personnel judiciaire à la cour, et collaborer avec d'autres provinces. Peut-être qu'on pourrait faire venir des juges bilingues du Nouveau-Brunswick, par exemple. Je vous rappelle que d'être entendu par un juge dans sa langue, c'est un droit qui est garanti par la loi et à la limite par la Constitution. Donc, les droits des francophones sont brimés ici parce qu'ils ne peuvent pas avoir accès à la justice dans leur langue.
Les fonctionnaires ontariens sont inquiets de devoir retourner au travail dans des bureaux insalubres. On en parle dans le droit.
Oui, je vous rappelle que le gouvernement de l'Ontario a demandé à ce que tous les fonctionnaires retournent à temps plein dans les bureaux à partir du 5 janvier. Cependant, il y a plusieurs indices qui montrent que le gouvernement et les bureaux ne sont pas tout à fait prêts à ça. Le droit a obtenu des photos qui ont été prises par des membres de l'Association des employés, gestionnaires administratifs et professionnels de la Couronne de l'Ontario. Sur les photos qui sont dans l'article, on voit des tuiles de plafond rongées probablement par des rats ou des souris, des traces de petits excréments de ces mêmes rongeurs-là, des dégâts d'eau et d'autres problèmes qui peuvent survenir dans des édifices quand ça fait assez longtemps qu'il n'y a pas personne qui les ont fréquentés régulièrement.
Ça donne pas le goût de retourner au bureau, hein?
Exactement. De l'autre côté, le syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario, eux, disent ne pas avoir eu de ce genre de signalement-là, mais il faut dire peut-être que leurs employés ne sont pas retournés au bureau de la même façon pour préparer l'arrivée des autres fonctionnaires. Mais il y a quand même plusieurs membres qui s'inquiètent de ne pas avoir assez de place de travail parce que ces espaces-là ont quand même été convertis pour du travail hybride au cours des dernières années, puis on veut que tout le monde arrive en même temps. Donc, on pense qu'il va y avoir, on craint qu'il y ait un manque d'espace. Côté du gouvernement, on assure que les espaces de bureaux ont été évalués. Il y a une très petite quantité de lieux de travail qui présentent le genre de problème qu'on a décrit ou le manque d'espace possible.
D'un espace à l'autre, Hearst, un nouvel espace culturel francophone, j'imagine qu'il n'y a pas de rôle là.
Non, parce que c'est tout neuf et tout rénové. C'est les médias de l'Épinette Noire, c'est l'organisme à but non lucratif qui gère la radio communautaire et le journal francophone Le Nord à Hearst, dans le nord de l'Ontario. L'ancien propriétaire du journal Le Nord avait une petite librairie à Hearst, puis elle a fermé il y a quelques années parce qu'il n'était plus capable de s'en occuper. Donc, les dirigeants des médias de l'Épinette Noire ont décidé de prendre le relais et ont ouvert une nouvelle librairie qu'ils ont appelée la librairie 10-4. Ça a été ouvert la semaine dernière. Comme le rappelait la députée libérale Lucille Collard, j'en avais parlé il y a quelques semaines, il existe seulement 3 librairies francophones en Ontario et celle-ci qui allait ouvrir, c'était la troisième dont elle parlait. C'est un modèle un peu différent. C'est pas une entreprise à but lucratif parce que les médias de l'Épinette Noire, c'est un organisme à but non lucratif. Donc, la librairie va être sous le même modèle, ce qui est assez rare comme modèle de librairie, mais on souhaite aux gens de Hearst que ça fonctionne, puis peut-être que c'est une bonne occasion d'acheter des cadeaux de Noël.
Oui, c'est une belle idée d'appeler la librairie 10-4. Viens me rejoindre à la librairie 10-4. 10-4, j'arrive. Un don historique pour soutenir la philanthropie francophone de l'Alberta.
La Fondation franco-albertaine, oui, avait un objectif de 300 000 $ pour son francoton 2025. La cible a été largement dépassée de plus de 1 million de dollars. Ben, on a atteint 1 million de dollars grâce à 414 dons. Mais le total historique a été rendu possible par un seul don de 700 000 $ qui a été fait par Accès Emploi. Accès Emploi, c'est une entreprise sans but lucratif qui gérait le centre d'emploi francophone pour Edmonton et le nord de la province. Puis à la suite, une refonte du système d'emploi en Alberta, là, ça va être un nouvel organisme qui va prendre en charge ces responsabilités-là. Ça s'appelle Parallèle Alberta. Par conséquent, Accès Emploi devait être dissous. Mais grâce à ce que disent les dirigeants de l'organisme, c'est que vu qu'il y avait une bonne gestion financière, il avait réussi à accumuler un bon montant. Puis, ils voulaient le redonner à la communauté francophone. Et selon eux, la meilleure façon, c'était de le donner à la fondation, parce que ça allait permettre de redistribuer les fonds à l'ensemble de la francophonie de la province. Donc, la fondation franco-albertaine donne des dons, des bourses d'études et de l'aide financière à des projets. Donc, ils étaient évidemment très contents de ce don-là.
Et finalement, après 100 ans au Vatican, des artefacts autochtones rapatriés au Canada.
Il y a 62 artefacts autochtones qui sont arrivés au Canada le 6 décembre. Ils étaient au Vatican depuis 1925. Ils avaient été recueillis à travers d'autres objets à travers le monde sous les ordres du pape Pie XI pour créer une exposition missionnaire au Vatican à l'époque. Autour de ces artefacts-là au Canada, c'était important pour les Premières Nations. Il y a plusieurs chefs, dont des chefs Inuits du Nunavut, qui étaient présents à l'aéroport de Montréal quand la cargaison est arrivée. Parmi les 62 artefacts, il y a un kayak de 4,4 mètres de long qui vient du Nunavut, qui est considéré comme un objet sacré par les Inuits. Les objets n'ont pas encore été envoyés dans les Premières Nations qui pourraient les récupérer, là, parce que sont au musée de l'histoire de Gatineau. On va les déballer et les inspecter correctement pour être sûr qu'ils sont en bon état et qu'on peut les déplacer de façon sécuritaire. C'est important de noter dans cette restitution-là, ce que nous raconte l'Aquilon, c'est que ça concerne une très petite quantité d'artefacts que le Vatican retourne. Comme je vous disais, le Vatican a 100 000 objets provenant de 5 continents dans cette collection-là, donc 62 au Canada, c'est une très petite quantité. Il existe également un désaccord sur la façon de qualifier ce retour-là. Les Premières Nations insistent pour dire que c'est qu'ils le reconnaissent comme un rapatriement et que c'est un premier pas vers la réconciliation. En revanche, la Conférence des évêques catholiques du Canada parle plutôt d'un don d'objets aux Premières Nations. Donc, les Premières Nations n'aiment pas ce terme-là de don parce que c'était quelque chose qui leur appartenait dans le passé. Ils disent que ça ne va pas assez loin, puis ils demandent au pape Léon XIV de rectifier la manière dont ce retour-là est présenté.
J'allais dire que c'est un cadeau de Noël, mais finalement, ça n'en est pas vraiment un.
Pas tout à fait.
Joyeuses fêtes, cher Julien. On va se retrouver en 2026, j'espère.
Oui, absolument. Puis joyeuse fête à vous, à toute votre équipe et tous les auditeurs.
Merci. Notre titre qui fait partie de l'album de Noël d'André Gagnon. Pablo Rodriguez annoncera sa démission. La nouvelle est tombée. Tommy Chouinard écrit embourbé dans la controverse larguée par une partie de son caucus. Le chef libéral Pablo Rodriguez annoncera sa démission. Sa décision est prise, mais elle faisait déjà peu de doutes dès hier soir, mardi. La presse a révélé que Pablo Rodriguez, émotif et en pleurs, remettait en question son avenir politique lors d'appels à des proches mardi. Sa décision de reporter une réunion déterminante de son caucus de 8h30 à 14h aujourd'hui a alimenté des rumeurs sur une démission imminente dans les rangs libéraux de Québec à Ottawa. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve demain à compter 9h30. Passe une belle journée.
Après